Notre Bible ce matin, on va aller dans la parole de Dieu pour quelques minutes et ensuite on va prendre le repas du Seigneur. On va avoir un bon temps. Déjà, on a eu un bon temps à l'église, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça venir à l'église. Et vous? J'espère. Alléluia. Alléluia. On va déclarer quelque chose qu'on aime déclarer ici. Vous savez que la Bible est inspirée de Dieu. Vous savez que ce n'est pas un livre humain, mais c'est un livre divin. Amen. Tout ce qui était écrit dans ce livre est inspiré de Dieu et utile pour notre instruction et pour notre bien. Et je pense qu'il y a un principe de la parole qui dit que qu'est-ce qu'on croit dans notre cœur et qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche s'accomplira. Donc, c'est pourquoi on aime faire cette petite déclaration. Si vous avez une Bible avec vous, prenez-la dans vos mains. Sinon, il y a une feuille avec presque tous les versets qui sont marqués dessus. Prenez ça. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Et je serai pour toujours et à jamais changé. Amen. Alléluia. Woo! Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le fun, hein? Savez-vous que Dieu a un plan? Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour cette église. Et je ne sais pas ce qui vous concerne, mais j'ai hâte de voir les jours qui s'en viennent parce que je ressens dans mon esprit, il y a des choses qui mijotent. Il y a des choses qu'on a prié depuis longtemps pour cette... Vous savez, aujourd'hui, ceux qui connaissent l'histoire, vous savez c'est quoi aujourd'hui? Hein? 60e anniversaire du débarquement en France, hein? Le jour J. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'histoire, mais c'est intéressant parce que cette journée-là, il y a 60 ans, il y avait les armées canadiennes, les armées américaines et anglais, et avec quelques Français, ils avaient une mission. Ils avaient une vision et une mission, un objectif à atteindre. C'était la libération de l'Europe. Et il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi ces objectifs avec tout leur cœur. Il y a des gens qui ont payé le sacrifice ultime. Dans le fond, ils ont donné leur propre vie pour donner la liberté aux autres, ceux qui étaient captifs. Mais il y a 60 ans de ça. Mais je pense à ça et je pense, wow, nous aussi, nous avons une mission. Nous avons une vision. Nous avons les objectifs. Il y a un peuple qui est dans l'esclavage de Satan qui ont besoin d'être libérés. Amen. Et nous, en tant qu'Église, nous avons une mission d'aller les libérer. Mais c'est spécial aujourd'hui aussi pour moi, personnellement, parce que le 50e anniversaire du débarquement, le 6 juin 1994, c'était une journée spéciale pour moi aussi, parce que on a pris l'avion, on a quitté la France. On a vécu en France en couple d'années, mais le 6 juin, on a quitté la France avec une mission et un objectif. C'était de venir ici au Québec. Amen. Et donc, ça fait 10 ans de ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Si je regarde en arrière, il y a beaucoup de choses. Je connaissais presque personne qui est ici il y a 10 ans. Mais là, je vois des personnes qui sont chères à moi et que j'aime et que j'ai le privilège de servir comme pasteur. Et c'est bon de regarder et voir. Dans 10 ans, Dieu a fait tant de choses. Mais je sais que c'est comme juste le tout début. C'est comme le commencement. On a travaillé fort sur certaines choses dans le fondement et on travaille encore sur le fondement. Mais je sais que dans mon esprit, dans mon cœur, que le meilleur est à venir et on n'a rien vu à date. Amen. Donc, comme je dis, pour moi, c'est comme une journée spéciale. Beaucoup de choses, hein, cette année, pour moi, c'est spécial. Ça va faire, dans quelques semaines, 20 ans depuis que j'ai été appelé au ministère, que je commençais à prêcher. La semaine prochaine, ça va faire 20 ans depuis que j'ai rencontré ma femme. C'est comme une année spéciale pour moi, mais beaucoup de choses. C'est comme, je sais dans mon cœur, dans mon esprit, qu'on va voir la gloire de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Des fois, on va de l'avant dans le plan de Dieu et on arrive dans les moments où on ne sait plus quoi faire. Est-ce que vous savez de quoi je parle? On pense avoir une vision, une mission, on a fait tout ce qu'on sait faire, mais des fois, on fait tout ce qu'on sait faire, mais il nous semble que rien marche. Est-ce que je suis la seule personne qui a vécu ça? Hein? Aujourd'hui, on va parler de ça un petit peu. Hein? Que faire quand rien vous semble marcher? Il y a des journées, il y a des mois, il y a même des années où des fois, tout ce qu'on fait, il me semble que rien marche. Pourtant, Dieu a donné les promesses. Pourtant, j'ai la parole. Et je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Mais des fois, on arrive dans les moments de la vie où on ne voit pas l'accomplissement ou la réalisation ou la manifestation de qu'est-ce que Dieu a promis pour tout de suite. Est-ce que vous êtes d'accord? Je veux pas juste prêcher à moi-même ce matin. Mais je pense que chacun de nous, on peut comprendre et compatir à qu'est-ce que je suis en train de dire. Que ça soit dans votre vie personnelle. Des fois, les plans, les objectifs, les buts et les choses que vous croyez qui viennent du Seigneur, c'est comme, au moment donné, il y a un blocage. Qu'est-ce que je dois faire? Il me semble que ça devrait déboucher, mais ça débouche pas. Il y a quelque chose. Et des fois, on peut être tenté d'être découragé ou frustré. Vous êtes d'accord? Savez-vous, ma femme m'a appris, parce que le Seigneur lui a montré, que la frustration ne vient jamais de Dieu. Amen. Et c'est bon, hein? Elle a dit ça souvent, elle dit des choses qui sont simples, mais qui sont tellement profondes. Comme un jour, quand on était prêt à déménager en France, quand on a parti des États-Unis pour aller en France, il y avait des émotions un peu mixtes. On voulait aller faire la volonté de Dieu, mais d'un autre côté, on voulait rester. On venait d'avoir notre premier enfant. Je voulais pas l'éloigner de ses grands-parents, etc. Je savais que mon enfant allait grandir dans une culture et un contexte complètement différent que qu'est-ce que j'ai eu comme enfant, etc. Mais Tania avait encore cette révélation. Elle a écrit sur papier, elle a collé sur le frigidaire. C'est-à-dire que la vie est trop courte et l'éternité est trop longue pour ne pas faire la volonté de Dieu. Amen. Ça a resté toujours avec moi. La vie est trop courte et l'éternité est trop longue de ne pas faire la volonté de Dieu. Et même chose, comme je viens de dire, il y a tellement, la frustration ne vient jamais de Dieu. Si vous êtes frustré, découragé, laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Et aujourd'hui, on va voir que même si nous vivons dans un monde où ce n'est pas toujours évident de voir clair, il y a des choses qu'on sait, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on est certain, il y a d'autres domaines où on a quand même les points d'interrogation. On sait que c'est ça qui est supposé d'arriver, mais on ne sait pas comment. Elle sait qu'elle est supposée de partir dans quelques semaines pour le Pérou, mais des fois, elle ne sait pas comment ça va arriver. Elle sait qu'elle va avoir les fonds nécessaires, mais on ne sait pas toujours comment, n'est-ce pas vrai? On voit certaines choses, c'est clair, je sais que Dieu va pourvoir, mais je ne sais pas comment. Amen? Même chose pour vous. Vous savez que Dieu va pourvoir vos besoins, mais des fois, vous ne savez pas comment. Quel travail? Quelle porte va s'ouvrir? Quelle porte va être fermée? Comment est-ce que ça va dérouler dans ma vie? On ne sait pas. Aujourd'hui, et si vous regardons, on va regarder ensemble un verset de la parole en 1 Corinthiens chapitre 13. Regardons. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Alléluia. Que faire quand rien ne vous semble marcher? Ou on peut dire, un autre titre pour ce message, ça serait les pas sûrs. Dans un monde obscur. 1 Corinthiens, chapitre 13. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Verset 12. Ici, la parole de Dieu dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Nous voyons, mais nous voyons d'une manière obscure. C'est comme si on peut voir les choses de l'esprit, on peut voir Dieu, on peut voir les choses que Dieu veut et on peut entendre les choses que Dieu veut nous dire. Mais des fois, c'est à travers un miroir, c'est à travers une fenêtre qui fait en sorte que l'image qu'on voit, c'est un peu obscure. Je vois, mais c'est pas à 100% clair. Savez-vous de quoi je parle? ou est-ce que je suis le seul? C'est pourquoi nous marchons par la foi ici, n'est-ce pas? Et non par la vue. Si on verrait clair tout le plan, si on était capable à chaque matin de se réveiller et de dire, « OK, Seigneur, on ouvre le poste du ciel, on ouvre la télévision et là, devant nous, c'est l'image de Jésus, le chef de l'Église. Bonjour Gabriel, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais te dire exactement qu'est-ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, le 7 juin. Tu vas faire telle chose à telle heure et tu vas dire tel mot et bababa. Ça serait de fun, hein? Mais ça serait pas la foi. Ça serait pas la foi. Et la parole de Dieu est claire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, nous voyons nos moyens d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Est-ce que vous avez hâte de voir Jésus face à face? Aujourd'hui, je connais en partie, je connais des choses, je ne suis pas dans les ténèbres. Je ne suis pas comme un homme croyant qui ne connaît rien et qui ne voit rien. Je vois et je connais des choses. Mais je ne vois pas toujours clair et je ne connais pas parfaitement. Amen? Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, que faire quand rien vous semble marcher? Qu'est-ce que vous êtes supposé de faire? Comment est-ce que vous pouvez prendre les pas qui sont sûrs, même si vous marchez dans un monde obscur? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie, que vous suivez le bon chemin et que les pas que vous prenez sont les bons pas? Parce que la Bible dit que les pas d'un homme juste sont ordonnés de Dieu. Et il faut qu'on soit capable de marcher avec confiance. Je sais que je fais la bonne chose au bon moment, avec la bonne personne, avec la bonne attitude. Ça, c'est une bonne recette pour le succès, hein? C'est comme une chaise. Hein? Il faut faire la bonne chose, à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Amen? Si tu n'as qu'une seule patte, vous allez tomber, hein? Vous ne serez pas trop solide dans la vie. Il ne faut pas juste faire la bonne chose, mais au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, et moi, je vais ajouter avec une bonne attitude. Alléluia! Donc, voici la réponse à notre question. Que faire quand rien ne semble marcher? Quand les choses nous semblent obscures, on voit, mais on ne voit pas clair. On connaît le plan de Dieu, mais on ne connaît pas tout. Amen? Je sais des choses, mais je ne sais pas tout. J'ai compris les affaires, mais je n'ai pas tout compris. Que faire? Comment est-ce que je peux être sûr de mes pas? Ici, c'est la réponse. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, marcher avec espérance, marcher avec foi, et marchez dans l'amour, et vous allez être sûr et certain de chaque pas que vous prenez. Amen? Je sais qu'ici, c'est marqué, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les choses éternelles. Vous savez que même rendus au ciel, nous aurons toujours besoin de l'espoir. Intéressant, n'est-ce pas? Méditez là-dessus, vous allez comprendre des affaires. Il faut, même au ciel, il faut avoir la foi. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Il a toujours été, il sera toujours. Vois-tu? Et Dieu est un Dieu d'amour, il est amour. Ces choses sont les choses les plus importantes. L'espérance, la foi et l'amour. Et même au ciel, vous en aurez besoin. Vous savez, des fois, on pense que le ciel, c'est la fin de toutes choses. Mais dans le fond, rendu au ciel, c'est le commencement. Il y a beaucoup de choses que nous aurons besoin. On aura toujours besoin de faire confiance à Dieu, même dans le futur d'éternité. Dieu va nous demander de faire les choses, peut-être qu'on ne sait pas. L'univers est énorme. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a planifié de faire avec toutes ces étoiles, toutes ces planètes. J'ai aucune idée, mais je sais ceci. Je sais que je fais partie de son plan. Notre vie ici, comme on a dit, la vie est trop courte. Et l'éternité est trop longue pour ne pas faire la volonté de Dieu. Mais si on veut ici sur la terre faire la volonté de Dieu et prendre les pas qui sont sûrs et certains, il va falloir ces trois choses, espérance, foi et amour. Regardons. Première chose, c'est l'espérance. Alléluia. C'est quoi l'espérance? L'espérance, il y a beaucoup de définitions qu'on pourrait donner pour l'espérance. On peut dire que c'est une attente joyeuse du salut de Dieu qu'il va révéler, qu'il a déjà révélé à nous. Mais une définition que j'aime bien de l'espérance, c'est une vision. C'est mon Dieu, une vision de mon futur préféré. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, j'ai un futur. En Jésus-Christ, je peux avoir et recevoir une vision pour ma vie. Et des fois, quand vous êtes là dans la vie et vous savez pas où tourner ou pas où commencer, c'est quoi la chose que vous avez besoin de faire? C'est, premièrement, saisissez la vision. Tout le monde dit vision. Saisissez sa vision de votre futur préféré en lui. Si vous voulez prendre des pas qui sont sûrs dans un monde obscur, il faut saisir la vision que Dieu a pour votre vie. Amen? Quelqu'un qui est malade et qui souffre depuis des années avec une maladie grave, c'est quoi dont il a besoin? Il a besoin de l'espérance. Il a besoin de savoir que je peux avoir une vision dans notre futur. Je ne suis plus obligé de rester boiteux le restant de mes jours. Je ne suis plus obligé de rester malade le restant de mes jours. Je peux avoir une vision d'un futur préféré en lui. Et j'ai une bonne nouvelle. Dans le Seigneur Jésus, il y a toujours de l'espoir. Je vais le répéter. Il y a toujours de l'espoir en Jésus. Le problème avec plusieurs d'entre vous, vous avez perdu de l'espoir. Vous n'avez pas une attente joyeuse d'un futur préféré. Vous avez dit, ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça, ça va jamais changer. Il y a des choses que dans la vie que vous pouvez changer, il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas changer. Mais en Jésus, il y a toujours de l'espoir. Sa volonté peut s'accomplir dans votre vie si vous lui faites confiance. Amen. Donc, il ne faut jamais perdre la vision de votre vie. Il ne faut jamais perdre la vision. Je suis sûr, comme je dis, j'ai utilisé cet exemple, je sais qu'est-ce que c'est d'être appelé à aller en Outre-mer, et que d'être obligé d'acheter les billets d'avion ou de payer les loyers qui sont plus chers que votre budget peut permettre, je sais qu'est-ce que c'est. Et je sais qu'est-ce que c'est d'être obéissant, de dire, OK, Seigneur, j'y vais. Mais je sais que quand on est allé en France, savez-vous que ça coûte cher, plus cher de vivre en France que vivre au Québec, ça c'est officiel, hein? Surtout, hein, sur la Côte d'Azur, c'est pas, pour un petit appartement, on peut avoir un château pour le prix qu'on paye pour un petit logement avec une chambre à coucher. OK? C'est cher. Je sais qu'est-ce que c'est d'être là devant le plan de Dieu et de dire, je ne sais pas, il n'y a pas assez d'argent, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments? Il ne faut pas lâcher la vision. Il faut garder devant nous la vision. Il faut qu'on se voit. Pense. Il faut qu'on se voit en train de faire du ministère. Même chose comme pour Alice, il faut qu'elle se voit. Non, je me vois dans l'avion, je me vois arriver au Pérou, je me vois faisant d'évangélisation dans la rue, je me vois là avec l'équipe, je ne vais pas perdre l'espoir, je vais garder la vision de mon futur préféré en lui. Amen? Quand Dieu vous demande de faire les choses impossibles, et ça, savez-vous que ça marche comme ça? C'est un principe biblique que même les gens de ce monde ont essayé d'utiliser. Les vendeurs, souvent, ils ont dit, hey, « Mais moi, je crois à la sous-conscience, je vais, hein, on va visualiser une affaire, on va visualiser que la chose est vendue, etc. » Mais ça, c'est comme, eux autres, ils jouent un peu avec un principe spirituel, mais ils ne connaissent pas l'auteur de ce principe. Mais c'est Dieu qui, par exemple, quand il voulait faire de Abraham un homme qui était en veillante avec sa femme qui était vieille aussi, hein, qui a dépassé l'âge pour avoir des enfants, quand Dieu voulait faire de lui une grande nation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Abraham, sors de ta tente. Viens ici, dehors avec moi. Levez vos yeux et regardez les étoiles. Si vous êtes capable de les compter, laissez-moi vous dire, ça c'est aussi nombreux que sont les étoiles, c'est ça, aussi nombreux sera votre postérité. Alors regardez le sable, les grains du sable par terre. Si vous êtes capable de les compter, vous serez capable de compter le nombre de vos enfants et de vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, etc. Dieu a donné une vision à Abraham. Et à chaque fois qu'il allait se promener, hein, parce que ça a pris 20 ans pour lui avant de voir la manifestation. 25 ans. 25 ans pour lui d'avoir la manifestation. Donc, est-ce que vous croyez que dans 25 ans, il a les occasions pour être découragé ou frustré? Mais pourquoi est-ce que Dieu lui a donné une vision? Pourquoi est-ce qu'il a montré les étoiles? Parce qu'il voulait qu'à chaque fois qu'il se promène au-dessus des étoiles pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne? Oh, je m'en souviens. Seigneur, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? OK, ouais, je me rappelle. Et quand il est là, c'est pas juste, ça fait déjà 15 ans, et la poussière commence à voler par tout lui. Ah, ouais, je me rappelle. Amen? Parce qu'on, des fois, on est porté à dire, ah, Seigneur, ou, ah, Seigneur. N'est-ce pas? Donc, quand on dit, ah, Seigneur, on devrait se rappeler des étoiles. Et quand on fait comme ça, on devrait se rappeler de la poussière. Il dit, Seigneur, tu as fait la promesse, tu es fidèle. Gardons l'espoir. Perdez pas l'espoir. Gardez une vision. C'est la vision qui va vous donner la force nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Amen. Proverbe 29, 18. Je vais lire plusieurs versets qui sont dans vos notes. Vous pouvez lire avec moi. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Voulez-vous que vos pas soient sûrs? Vivez dans la lumière de votre espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Romains 15, 4 dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voulez-vous avoir une vision de votre vie? Voulez-vous avoir de l'espoir pour votre vie? Où est-ce que vous allez trouver cette espérance? Dans les Écritures. Je ne parle pas de fabriquer une vision qui vient de votre tête, ou d'une rêve ou un songe que vous avez fait parce que vous avez mangé trop chez Stratos. Une poutine de plus. Et une petite de trop, et puis vous avez fait des cauchemars, des rêves bizarres. Oh, j'ai une vision pour ma vie. Non. Ça, c'est pas la vision qui vient de Dieu. La vision que Dieu va vous donner va toujours être en ligne avec l'espérance que vous donnent les Écritures. Cherchez dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit à propos de votre situation. Si vous êtes malade, vous allez lire dans la Bible, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéri, et ça va créer une image, une vision d'une un futur préféré pour vous. Amen. Amen. Et saisissez cette vision pour vous, pour votre famille, pour votre ministère, pour votre église. Laissez-moi vous dire, c'est sûr qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe dans notre entourage. Il y a des personnes qui vont résister à la volonté de Dieu. On ne peut pas forcer un homme ou une femme de faire la volonté de Dieu. Donc, voici qu'est-ce que je vais vous dire. Votre espérance ne dépend pas d'une autre personne. Et même si Dieu voulait que telle chose arrive avec telle personne, si la personne décide de dire non au plan de Dieu, Dieu est grand, Dieu est puissant et il est capable de quand même réaliser son plan malgré la désobéissance de l'autre personne. Donc, votre espoir, votre espérance ne dépend pas de la fidélité des autres humains. Votre espérance dépend de la fidélité de Dieu. Amen. Et même Abraham, il a raté son coup une fois, il a dit, bon, ça fait longtemps, ils ont essayé d'aider Dieu avec son plan. Vous vous rappelez? Sarah a dit, bon, mais écoute, prends ma servante, tu peux avoir les relations avec elle et avoir un enfant avec elle. Donc, il a fait, et aujourd'hui, on a la guerre dans le Moyen-Orient à cause de ça. Dieu aime ces deux peuples. Savez-vous? Dieu aime les enfants d'Ismaël et il aime les enfants d'Abraham. Mais ils sont tous les enfants d'Abraham, mais il aime les enfants, excusez-moi, de Jacob. Il aime le peuple juif. Il aime le peuple arabe. Mais quand même, on voit que le plan originel de Dieu, ce n'était pas pour Abraham d'avoir des relations avec la servante de Sarah. C'était de faire confiance à Dieu, de garder l'espoir et de marcher dans son plan. Amen. Donc, ils ont comme mêlé les affaires. Ils ont fait des erreurs sérieuses et graves. Mais savez-vous que Dieu est quand même assez grand et puissant pour racheter cette situation? Amen. C'est sûr que parce qu'il y a des fois des personnes, « Ah oui, moi, j'ai plus d'espoir. J'ai plus confiance en qui que ce soit. » Mais ayez confiance en Dieu. Il est grand, il est puissant. Et il a toujours un moyen de vous faire réussir. Amen. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance qui vient dans le Seigneur, c'est pas une espérance naturelle, c'est surnaturelle. Ça vient par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, quand vous êtes découragé et frustré, levez vos yeux, regardez les étoiles et dites merci Seigneur. Mettez votre nez dans la parole et découvrez sa vision pour votre vie et dites Seigneur, merci. Par la puissance de l'Esprit Saint, je peux avoir une vision renouvelée pour mon futur. C'est un futur préféré en Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, on a parlé de l'espérance, on va parler de la foi. Ayez confiance, tout le monde dit confiance, que Dieu est capable d'accomplir son plan. Vois-tu, ça prend l'espérance. Et pourquoi est-ce que j'ai changé l'ordre ici? La Bible dit ces choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'espérance d'abord? Parce qu'il est impossible d'avoir la foi sans avoir premièrement l'espérance. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que Hébreux chapitre 11 le dit, dans la parole vivante, c'est dans vos notes. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. Tout le monde dit confiance. Dans la réalisation de ce qu'on espère. Si vous allez avoir la foi, c'est une ferme confiance dans ce que on espère. C'est-à-dire que si j'espère rien, je ne peux pas avoir confiance en rien. Il faut avoir une vision, une espérance avant d'avoir la foi. Est-ce que vous me suivez? C'est une manière de le posséder déjà par avance, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi la vision que vous avez pour votre vie, pour votre futur? Si vous avez perdu de l'espoir, vous ne pouvez pas avoir la foi. Donc, commencez en sondant les Écritures, cherchez la vision que Dieu a pour votre vie, parce que vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Cherchez sa vision, son plan pour votre vie, ça va renouveler votre vision. Et une fois que la vision est établie dans votre cœur, vous serez capable de donner votre foi dans cette vision et votre confiance en Dieu pour réaliser cette vision. Amen. J'espère que vous êtes là. Est-ce que ça rentre dans votre cœur ce matin? On parle de comment avoir les pas sûrs dans un monde obscur. Comment, que faire quand rien vous semble marcher? Romains chapitre 4, verset 17. Est-ce que vous êtes là? Dans vos notes. Selon qu'il est écrit, il parle d'Abraham encore. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il lui avait dit, telle sera ta postérité. Verset 21 dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Savez-vous que si Dieu vous donne une vision, que Dieu est capable de l'accomplir? Si vous êtes malade et vous avez une vision d'être en santé, savez-vous que Dieu est capable de l'accomplir? Hein? Savez-vous que peu importe qu'est-ce que Dieu vous montre, j'ai dit qu'est-ce que Dieu vous montre, ces choses que vous avez trouvées dans sa parole, ses promesses, il faut que vous soyez convaincus. Il faut que vous ayez une pleine conviction, que vous soyez persuadés que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Ça, c'est la foi. Et en fait, c'est une façon de le posséder déjà par avance, comme si c'est déjà le cas. Dieu a dit à Abraham, « Je vais faire de toi père d'une grande nation. » Il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Une personne qui ne peut pas avoir cette attitude, « Oh, je suis malade, il faut que je cherche la guérison. » Non, il faut que vous ayez la révélation d'une fois pour toutes que vous avez été guéri par les mains précieuses de Jésus. Et commencez à dire, « Merci Seigneur que j'ai été guéri et si j'ai été, je suis. » Oh, mais ça serait un mensonge. Non, ça serait la vérité. Abraham a eu son nom changé à Abraham, qui veut dire « père d'une grande nation ». Dieu voulait qu'à chaque fois qu'Abraham se présentait à quelqu'un qui disait, « Salut, je m'appelle père d'une grande nation. » « Ah oui? Tu as combien d'enfants? » « Mais dans le fond, je n'ai pas d'enfants. J'ai juste un gars que j'ai eu avec la servante de ma femme. Et ça, c'est une autre histoire. Mais je suis père d'une grande nation. » C'est fou, hein? Non, c'est Dieu. Parce que Dieu a dit, regardez les étoiles, regardez le sable. Amen. Et à chaque fois qu'il disait, je m'appelle père d'une grande nation, il est en train de dire, je crois que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. C'est pourquoi, même si on ne voit pas tout l'argent dans le compte, on peut dire, quand on sait que c'est Dieu, je vais en France. Je déménage en France dans quelques semaines. Ah oui, comment? Je ne sais pas, mais j'y vais. Hein? C'est pourquoi elle peut dire, je vais au Pérou. Si c'était juste son idée à elle, ce serait une autre histoire. Je vais au Pérou. Ah oui, est-ce que tu as tout l'argent qui est déjà rentré? Non, pas encore, mais au nom de Jésus, je l'ai. Je ne l'ai pas vu entrer, mais je l'ai. Au nom de Jésus, j'y vais. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi on peut dire que cette église va sur la ville de Drummondville, la province Québec, la francophonie est au-delà par la puissance de la bonne nouvelle. Amen. Puis, troisième chose, et la chose qui est dans le fond le plus important. Si on cherche une direction, on connaît en partie, on voit pas clair, on veut prendre les pas qui sont sûrs dans un monde obscur, il faut avoir saisi la vision que Dieu nous a donnée pour notre vie, il faut marcher par la foi, mais qu'est-ce qui est le plus important dans tout cela, c'est de marcher dans l'amour. Pourquoi? La Bible dit ceci, Galates chapitre 5, verset 6. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Savez-vous que vous pouvez avoir une vision pour votre vie? Vous pouvez avoir confiance que Dieu est capable de le faire. Mais si vous ne marchez pas dans l'amour, votre foi va rester inefficace. Tu peux avoir du gaz dans ton char. Tu peux avoir une vision de te rendre à Saint-Nicéphore ou en Floride ou n'importe où. C'est plus proche à Saint-Nicéphore, hein? C'est loin ça, hein? Mais pas si loin que ça. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir une espérance. Moi, j'espère que je serai rendu à Saint-Nicéphore avant 5 heures ce soir. Et tu peux avoir confiance que ton auto est capable de t'amener là. Mais si tu ne prends pas la clé, tu ne le mets pas dans la suite, si tu ne le tournes pas, ton char, ton auto, ta voiture ne va pas partir. Amen. Tu peux avoir une vision. Quelqu'un peut dire, merci Seigneur, je sais que tu m'as appelé à aller faire du ministère dans un autre pays. Je sais que tu es capable de le faire. Mais si toi, de ton côté, tu ne marches pas dans l'amour avec ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères et tes soeurs dans le Seigneur, tu n'es pas branché avec Dieu, ta foi sera inefficace et tu ne vas pas aller nulle part. Donc, une vision et une confiance en Dieu sans l'amour vaut rien. Mais si vous avez une vision et vous avez la confiance et la foi nécessaires et vous marchez dans l'amour, rien ne vous sera impossible. Amen. Alléluia. Regardons, on va finir avec juste un couple d'autres versets. Alléluia. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, si vous êtes d'aller, vous ne savez pas quoi faire, quelle direction à prendre, quel chemin à suivre, laissez-moi vous donner la réponse simple. Aimez Dieu et aimez votre prochain, et automatiquement, vous allez vous rendre à la bonne destination. Si c'est un peu obscur, je ne sais pas ce que je suis supposé de faire, Seigneur. Il me semble que j'ai une partie du plan, mais je ne connais pas tout. Voici la réponse. Marchez dans l'amour. Vous ne savez pas quoi faire? Marchez dans l'amour. Amen? La vie chrétienne n'est pas facile, mais elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Aime Dieu, aime ton prochain. 2 Corinthiens 5, 14 et 15 dit, « Nous sommes subjugués par l'amour de Christ, que le Christ nous a témoigné, et nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. » C'est quoi qui nous entraîne, c'est quoi qui nous presse et nous pousse en avant? C'est l'amour de Dieu. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci. Si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent point à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. C'est quoi qui va nous amener à ne jamais plus mener une petite vie égoïste? L'amour de Dieu. L'amour ne pense pas à soi-même, l'amour pense à Dieu et aux autres. Et si j'aime Dieu plus que toute autre chose, et si j'aime mon prochain plus que j'aime moi-même, je vais automatiquement arriver à la place où le Seigneur veut que je sois. Romains 13, 8 dit ceci, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne te tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. La foi, l'espérance et l'amour. C'est ça qui va nous donner les pas sûrs dans un monde obscur. Il faut aimer Dieu et aimer les autres dans vos notes. Comment est-ce qu'on va aimer Dieu et les autres? Avec nos pensées, avec nos paroles et avec nos actions. J'aime Dieu dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. J'aime mon prochain dans mes pensées. Qu'est-ce que vous pensez de votre voisin, vos frères et vos sœurs? Qu'est-ce que vous dites à propos de eux? Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est ça qui va montrer si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime Dieu ou non. Amen. Avec vos pensées, avec nos paroles et avec nos actions. Deux dernières choses que je veux que vous considériez aujourd'hui avant de terminer. Deux questions que vous pouvez vous poser. Dans n'importe quelle situation, si vous vous trouvez dans cette place où, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'ai une partie du plan, mais pas toute. Je connais en partie, mais je ne connais pas pleinement. Je vois, mais je ne vois pas clair. Qu'est-ce que je fais? Et si vous avez une décision devant vous que vous pensez et que vous considérez à prendre, posez-vous ces deux choses. Numéro un, si je décide de faire telle chose, remplissez le blanc. Si je décide de faire, peu importe qu'est-ce que vous êtes en train de décider, posez-vous la question, est-ce que cela sera un moyen pour moi d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée? Et est-ce que cela sera un moyen pour moi d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même? Vous avez une décision à prendre. Il y a certaines décisions qui sont faciles. Hein? Est-ce que je dois commettre l'adultère ou non? Posez-vous la question, si je commets l'adultère, est-ce que ça serait aimer Dieu de tout mon cœur? Et est-ce que ça serait aimer mon prochain comme je m'aime moi-même? Non. Mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus obscures. Mais posez-vous quand même la question. Je ne sais pas si je devrais donner pour l'émission ou non. Il me semble que je devrais donner un tel montant pour aider quelqu'un d'aller dans la mission. Mais est-ce que tu le fais? Si tu le fais, est-ce que ça serait un moyen pour toi d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain ou non? Et voici l'autre question. Si je décide de ne pas le faire, et en remplissant encore le blanc avec l'action que vous considérez, est-ce que cela sera un moyen pour moi d'aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée? Ou est-ce que cela sera un moyen pour moi d'aimer mon prochain comme je moi-même? Là, c'est une chose pratique, n'est-ce pas? Si je le fais, est-ce que ça va m'aider à aimer Dieu et aimer mon prochain? Si je ne le fais pas, est-ce que ça sera un moyen pour moi d'aimer Dieu ou aimer mon prochain? Parce que si vous prenez ça comme critère, pour chaque pas que vous prenez, vous allez toujours marcher dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, et l'amour de Dieu va vous presser, vous propulser en avant dans le plein centre de sa volonté. Si je vais au Pérou, est-ce que ça serait un moyen pour moi d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain? Si je ne vais pas, est-ce que ça serait un moyen pour moi d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain? Si je témoigne à mon voisin, si j'amène mon épouse pour aller souper, si je passe du temps avec mes enfants, si j'amène mon fils pour aller à la pêche, si je fais ceci, si j'aide à l'église pour faire le nettoyage, si je donne mon nom comme électricien ou plomberie, peu importe qu'est-ce que vous faites, posez-vous la question, est-ce que ça, c'est, si je le fais ou si je ne le fais pas, est-ce que ça va m'aider à aimer Dieu et aimer mon prochain? Si vous faites ça, la vie va être simple. Pas facile, mais simple. À chaque fois que vous avez une décision à prendre, posez-vous la question. Est-ce que ça va m'aider à aimer Dieu et mon prochain si je le fais ou si je ne le fais pas? Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher Tania? Elle va venir, on va recevoir le repas du Seigneur. Juste prendre quelques minutes ce matin. Alléluia. Je sais que c'est déjà midi moins 10. Il y a des fois des personnes qui disent « Ah, mais tu sais, j'ai le goût de quitter tout de suite pour être au restaurant avant tous les autres. » Posez-vous la question. Quitter avant le repas du Seigneur pour être au restaurant à l'heure, est-ce que ça serait une façon d'aimer le Seigneur ou pas? Non, je plaisante. Des fois, il y a des personnes qui travaillent, ils n'ont pas le choix, ils ont des obligations. Donc, si vous avez besoin de partir, il n'y a aucune condamnation, mais posez-vous la question. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais vous inviter ce matin à sonder votre cœur. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez reçu la vision pour votre vie? Est-ce que vous avez encore de l'espoir ou est-ce que vous avez perdu l'espoir? Et si vous avez perdu de l'espoir, sachez que le Seigneur est prêt par la puissance de l'Esprit Saint à vous redonner une vision pour votre vie. Et en sondant les Écritures, vous allez trouver sa vision. Et une fois que vous avez sa vision, sachez que Dieu est grand, il est puissant, il est capable d'accomplir tout ce qu'il vous a promis. Mais pour que votre foi soit efficace, il va falloir que vous marchiez dans l'amour. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les enfants vont entrer. Tania va venir jouer un peu de musique. Et si les hommes veulent venir préparer les choses pour distribuer le pain et le jus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, mais moi, je ne sais même pas si je suis né de nouveau. Je crois en Jésus, je crois que Jésus est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité des morts. Mais si toi, tu mourrais aujourd'hui, tu n'es pas certain d'aller au ciel. Tu n'as pas cette assurance d'avoir une place réservée pour toi au ciel. Si c'est le cas, aujourd'hui, je vous invite de donner votre vie à Jésus. Si vous confessez avec votre bouche le Seigneur Jésus et vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait « Oui, parce que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus ce matin. » Juste levez la main. Si vous êtes là, vous avez besoin de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Alléluia. Peut-être tout le monde ici connaît déjà le Seigneur. J'espère que c'est le cas, mais sinon, n'hésitez pas de prendre cette décision. Seigneur, au nom de Jésus, on te remercie. Donc, si les hommes veulent commencer à distribuer le pain. Le juge, je vous invite à prendre les éléments, les tenir dans vos mains et d'attendre. On va tous prendre les choses ensemble. Le Seigneur veut qu'on aille de l'avant en tant qu'individu et en tant qu'Église. Mais pour qu'on puisse courir ensemble, il faut avoir de l'espoir et la même vision. Et il faut qu'on a la même confiance. Il faut qu'on soit convaincu et persuadé que qu'est-ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Mais ce qui est le plus grand et la chose la plus importante de toutes ces choses, c'est l'amour. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on aime Dieu, il faut qu'on aime notre prochain. Si on aime Dieu et on aime notre prochain, automatiquement, on va faire la volonté de Dieu. Alléluia. On va juste attendre une minute pour que tout le monde soit servi. Mais je vous invite maintenant, tout de suite, juste commencez à sonder votre cœur. Posez-vous la question, Seigneur, c'est quoi ta vision pour ma vie? Seigneur, aide-moi à avoir confiance que tu es capable de le faire. Et Seigneur, montre-moi s'il y a des choses que je peux faire différemment pour mieux marcher dans l'amour avec toi et avec mon prochain. Alléluia.